Ne vous a pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent. Alors si vous le voulez bien, je vous propose que nous lisions le texte du jour, c'est-à-dire le texte qui a été choisi par l'Église. L'Église universelle, hein, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est une réponse, en fait, ce texte est une réponse que Jésus donne à ses disciples à la question de l'heure de son avènement et de la fin du monde. Donc c'est une réponse à cette question-là. C'est en Matthieu 24, du verset 29 au verset 51. Écoutons la parole de Dieu. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son Seigneur à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon Seigneur tarde à venir », s'il ne se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le Seigneur de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur, merci de nous avoir réunis autour de ta parole ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous et que tu veux nous parler. Ouvre nos oreilles, rends-nous attentifs à ta voix, afin que nous soyons transformés par toi. Amen. Les chapitres 24 et 25 de Matthieu, vous le savez certainement, sont souvent considérés comme un discours de Jésus dit eschatologique. C'est-à-dire un discours sur la fin des temps, décrivant la fin de l'histoire avec le retour en gloire du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, comme dit le texte, venant sur les nuées du ciel avec une puissance et beaucoup de gloire. Dans la portion que nous venons de lire, Jésus nous apprend que des signes annonceront cet avènement du Fils de l'homme. Mais aussi que cet avènement arrivera tout de même avec surprise, comme le déluge a été une surprise au jour de Noé. Et comme au déluge, à l'avènement du Fils de l'homme, certains seront pris et d'autres laissés. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, dit le texte, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. En d'autres termes, lors de l'avènement du Fils de l'homme, un tri va se faire. C'est un jour de jugement, ce qu'on appelle aussi le jugement dernier, où Dieu va faire le tri entre les bons et les méchants. Voici donc la lecture classique de ces deux chapitres qui fait l'hypothèse que l'avènement en gloire du Fils de l'homme ne se fera qu'une seule fois dans l'histoire. Et là, forcément, cet avènement ne peut avoir lieu qu'à la fin de l'histoire. En fait, il existe une autre lecture de ces deux chapitres. Et cette lecture envisage que cet avènement en gloire du Fils de l'homme aurait lieu régulièrement, et donc pas forcément à la fin du monde. Voici au moins deux raisons qui justifient cette deuxième lecture. La première raison se trouve dans le début du chapitre 24 que je n'ai pas lu, où Jésus donne aux disciples une série de signes annonciateurs de l'avènement du Fils de l'homme. Ces signes sont, je vous fais la liste, séduction par des faux prophètes, guerre, famine, tremblement de terre, persécution, profanation de lieux saints. À considérer tous ces événements, on peut dire sans mal qu'ils ont lieu tous régulièrement. Pas un n'échappe. Bon, on se dit alors, comme ils se répètent tous, comment donc un unique pourrait-il faire signe ? Alors, on peut se dire, il pourrait faire signe par son intensité. Une guerre plus meurtrière que les autres, un tremblement de terre plus dévastateur que les autres. Mais en fait, à bien y réfléchir, ça ne tient pas vraiment. Souvenons-nous des grands tremblements de terre dans l'histoire. Lisbonne, par exemple, je me suis amusé à aller chercher, 1755, 60 000 morts. Le tsunami en Indonésie, en 2008, 220 000 morts, énorme, et un trait de côte modifié. La famine, elle est continuelle. Les persécutions, elles sont plus que jamais actuelles. Et je vous renvoie au témoignage de l'association Porte Ouverte, allez voir sur leur site. Et si j'inclus dans ces persécutions l'antisémitisme nazi de la dernière guerre, je crois que l'on peut difficilement faire pire. On voit bien donc que la capacité de ces événements à faire signe n'est pas garantie par leur intensité. Voilà donc une première raison. Comme les événements qu'il annonce ont lieu régulièrement, l'avènement du Fils de l'homme a lieu lui aussi régulièrement. La deuxième raison, je vous en ai annoncé deux, qui justifie cette lecture, se trouve dans la bouche même de Jésus, quand il dit, vous l'avez entendu, au verset 34, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » On entend bien là que chaque génération doit connaître cet avènement en gloire du Fils de l'homme. La question qui vient tout de suite après, c'est que peut-on dire de cet avènement du Fils de l'homme si c'est un avènement régulier? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je disais tout à l'heure que l'avènement du Fils de l'homme effectuait un tri entre les bons et les méchants. Mais c'était dans le cas où cet avènement était à la fin du monde. Que devient ce tri si cet avènement se passe à chaque génération? En fait, ce tri, ce jugement s'effectue en nous. Lors de l'avènement du Fils de l'homme, certaines choses sont prises, d'autres laissées, pour reprendre la parabole des deux hommes au champ et des deux femmes à la meule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas possible de distinguer l'homme qui est pris de l'homme qui est laissé. Il n'est pas non plus possible de distinguer la femme qui est prise et la femme qui est laissée. Car les deux hommes font la même chose. Ils sont au champ. Les deux femmes font la même chose. Elles moulent à la meule. On peut donc très bien penser qu'il s'agit de la même personne. Mais alors, vous me direz, mais quand donc l'avènement du Fils de l'homme a-t-il effectué un tri en nous? Quand? À nous qui sommes là ce matin, cela a eu lieu au moins une fois. Au moins une fois. C'est quand? C'est lors de notre conversion. Toute conversion est l'avènement en gloire du Fils de l'homme. Et effectivement, lors de cette conversion, un tri a été fait. Quand une vie est transformée, c'est qu'un tri a eu lieu. Quelque chose a été pris, une chose, une autre chose laissée. Cet avènement a été à la conversion, mais se refait tout au long de notre vie. Ce tri, chers amis, Jésus l'exprime d'une deuxième manière dans ce texte, au verset 35, quand il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il ne s'agit plus de être pris ou être laissé, mais de passer, pas passer. Dire que le ciel et la terre passent, c'est dire que tout ce qui était nos références passe. Et on sait bien à quel point le ciel et la terre sont des références pour nous. Il n'y a qu'à voir la peur que provoque le réchauffement climatique. Ce qu'on croyait sûr vacille. L'avènement du Fils de l'homme se passe à chaque fois que ce qu'on croyait sûr vacille ou passe, et que les paroles de Jésus restent ou ne passent pas. Quand ça vacille, cela provoque immanquablement de l'insécurité, de la perte, de la souffrance. Il n'est donc pas étonnant que ce soit dans cette ambiance de fin de monde qu'a lieu l'avènement en gloire du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme a lieu dans nos vies à chaque fois que nos certitudes se sont mises à vaciller et que les paroles de Jésus sont restées et ont changé nos vies par un tri du bon et du mauvais. Ce tri, Jésus en parle d'une troisième manière, dans la courte parabole du serviteur fidèle et du méchant serviteur que vous venez d'entendre. Là, ce n'est plus être pris être laissé, ni même passé, pas passé, mais être en veille ou être hors veille. Jésus demande à ses disciples de veiller, car, dit-il, vous ne savez quel jour votre Seigneur va venir. Le tri va se faire sur l'état de veille de ses serviteurs, le jour où le Seigneur arrivera. Celui qui sera trouvé en veille, le Seigneur l'établira sur tous ses biens. Celui qui sera trouvé hors veille sera mis en pièces. Écoutez, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son Seigneur à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon Seigneur tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le Seigneur de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans cette parabole, Jésus nous apprend que veiller, c'est servir son Seigneur fidèlement. Veiller n'est pas attendre, essayer de rester les yeux ouverts alors que la nuit se fait longue. Non, veiller, c'est continuer de servir, c'est-à-dire, comme dit le texte, donner la nourriture au temps convenable aux gens que le Seigneur nous a confiés. À l'inverse, ne pas veiller, c'est s'impatienter et dire en soi-même « Mon Seigneur tarde à venir !» C'est murmurer, comme le peuple d'Israël a pu le faire souvent dans le désert avec Moïse. Nous ne veillons pas toutes les fois où on se parle à soi-même, c'est-à-dire quand on s'écoute parler au lieu d'écouter Dieu. Toutes les fois où on se construit un avis sûr, souvent quelqu'un, au lieu de servir inlassablement. Il ne faut pas imaginer que le serviteur fidèle et le méchant serviteur soient deux personnes différentes. Hein, on est bien d'accord. Ils sont les deux côtés d'une même personne. C'est comme avec les deux hommes au champ ou les deux femmes à la meule. Dans cette parabole, on apprend que celui qui sera pris est celui qui veille, c'est-à-dire aussi celui qui sert son Seigneur. Celui qui sera laissé est celui qui ne veille plus. La venue du Seigneur trie en nous ce qui sert le Seigneur et ce qui, en nous, ne le sert pas. On voit bien que ce tri nous transforme, nous modèle, comme le Seigneur veut que nous soyons. Mais que se passe-t-il une fois que ce tri est fait ? À l'arrivée du Seigneur, le Seigneur, dit le texte, établira son serviteur sur tous ses biens. Le serviteur change de service. Le Seigneur accroît les responsabilités de son serviteur. C'est un changement de vie. Le tri dans cette parabole nous perfectionne. Voilà l'effet de la venue du Seigneur, le perfectionnement. Réjouissons-nous, alléluia ! Bien sûr, ce n'est pas l'homme qui est à l'initiative de ce perfectionnement. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous façonne à son service. Ce n'est pas nous qui nous améliorons. Écoutez, Jésus le dit un peu différemment à ses disciples dans la parabole que vous connaissez tous, c'est la parole de la vigne dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes mon père et le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, écoutez, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Être en veille, c'est être prêt à se laisser visiter par le Seigneur, se laisser émonder, se laisser tailler pour porter beaucoup de fruits. Mes chers amis, pour sûr, l'avènement du Fils de l'homme marque la fin d'une histoire. Elle marque la fin d'une histoire. Peut-être la fin de l'histoire du monde, mais surtout la fin de beaucoup d'histoires individuelles pour qu'une autre histoire commence pour chacun, plus proche du Seigneur, pour qu'une autre histoire commence pour chacun, plus proche du Seigneur. L'avènement du Fils de l'homme et tous ces tournants dans nos vies au cours desquels nous avons été transformés, changés, perfectionnés et qui nous ont rapprochés de Dieu. Chers amis, vous avez bien compris. Si Jésus dit ces paroles, entre guillemets, de fin de monde à ses disciples et à nous ce matin, ce n'est pas pour leur faire peur de ce tri. Au contraire, mais pour qu'ils le désirent, pour qu'ils en appellent à ce tri. Car vous l'avez compris, l'avènement de notre Seigneur est là pour nous transformer, nous perfectionner, nous faire devenir de vrais hommes, de vraies femmes, toujours plus à l'image de Dieu. C'est pour encourager ses disciples à veiller que Jésus leur dit toutes ces choses, afin qu'ils tiennent bon dans leur désir d'être transformés alors que tout chavire autour d'eux. Mais alors, quel rapport avec Noël ? On est le premier dimanche de l'Avent. Quel rapport avec Noël ? Noël, c'est le premier avènement du Fils de l'homme. Mais cet avènement s'est fait dans la plus grande des discrétions, sans bruit. À son ascension, souvenez-vous, il reste 11 apôtres et quelques femmes quand même. Rien. Pourtant, 2000 ans après, c'est pas la même chose. Il y a l'Église, dont le Christ est la tête. Il y a son Église, nous. Si on cherche un événement planétaire qui pourrait avoir un lien avec l'avènement en gloire du Fils de l'homme, c'est bien la constitution de l'Église à travers l'histoire, c'est-à-dire la constitution de son corps. Il ne s'agit bien sûr pas de l'Église organisation, hein, on est bien d'accord là-dessus, divisée et pécheresse, mais de la vraie Église, celle de tous ces hommes et ces femmes dont la naissance de Jésus a transformé leur vie. Tous ces hommes et ces femmes qui se sont laissés émonder, tailler, transformer, perfectionner. Noël nous rappelle cet avènement initial qui a transformé le monde. qui a transformé le monde. Noël nous rappelle chaque année l'effet glorieux de cet événement insignifiant de Bethléem, l'Église et l'avènement en gloire et avec puissance du Fils de l'homme. Puissions-nous nous en souvenir en ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui. Amen. Et pour marquer cet événement, je vous propose d'allumer, bien sûr, la bougie de l'Avent, la première. Et je propose de l'allumer, bien sûr, pour toutes ces vies transformées, pour nous qui sommes là ce matin, et pour d'autres qui se réunissent en ce moment même dans d'autres lieux. Que nous puissions allumer cette bougie pour toutes ces vies transformées par l'avènement du Seigneur. Et bien sûr, on allume cette première bougie pour l'Église, mais l'Église, corps du Christ, bien entendu. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, merci de nous avoir envoyé ton Fils à Noël. Car l'avènement de ton Fils marque pour tous les hommes la chance d'être transformé par toi. Tu sais, Seigneur, que nos existences ne sont pas de longs fleuves tranquilles. La vie souvent nous malmène, nous secoue, nous mène où nous ne voudrions pas forcément aller. Seigneur, donne-nous la foi de croire que c'est toi qui diriges nos vies en vue de notre perfectionnement. Seigneur, donne-nous le désir de nous faire transformer par toi, de nous faire émonder, de nous faire tailler. Ton jugement, Seigneur, n'est pas là pour nous casser, nous démantibuler. Ton jugement, au contraire, est là pour nous perfectionner, pour nous donner la chance de porter encore plus de fruits pour toi. Seigneur, tu nous aimes. Qu'en cette période de l'Avent qui commence aujourd'hui, nous puissions ressentir ton amour plus intensément encore. Car à Noël, tu es venu vers nous, tu t'es abaissé jusqu'à nous. Seigneur, nous t'aimons en retour. Que nous puissions te rendre gloire en laissant ton Fils venir faire son œuvre en nous. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Et je vous propose de chanter dans la continuité de ces paroles. Restaure, ô Dieu, la gloire de ton nom. Ta main souveraine ébranle les nations. C'est le Seigneur qui est à la manœuvre. Ce n'est pas nous. Prions le Seigneur qu'il restaure sa gloire. Restaure, ô Dieu, en tout lieu ton renom et réveille l'Église qui porte ton saint nom. Modèle, ô Dieu, nos êtres froids et durs et dans ton feu d'orfèvre, Seigneur, rends-nous plus purs et dans ton feu d'orfèvre, Seigneur, rends-nous plus purs.